Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 10 décembre 2014. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition...
Appel des Nations Unies pour un arrêt de la violence autour de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo.
Serge Lazarevitch, le dernier otage français dans le monde libéré hier, mais inquiétude dans le nord du Mali.
Nairobi menace de poursuivre les gens impliqués dans un documentaire d'Al Jazeera sur l'utilisation d'escadrons de la mort contre les extrémistes islamistes au Kenya.
Le président Obama a dénoncé des méthodes contraires aux valeurs américaines après la publication hier d'un rapport des Sénats sur les techniques d'interrogatoire de la CIA après le 11 septembre 2001.
Les États membres de l'ONU acceptent d'accueillir sur leur sol 100 000 réfugiés qui se trouvent dans les pays voisins de la Syrie.
Et ne manquez pas la minute éco ainsi que les sports. Et en fin d'émission, la musique de Roger Muntou. Pour l'instant, le journal. Les Nations Unies appellent à un arrêt de la violence autour de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, où plus de 200 personnes ont été tuées au cours des deux derniers mois. Le coordonnateur de l'action humanitaire au Congo, Mustapha Soumaré, a lancé cet appel hier, trois jours après que des rebelles ougandais présumés eurent massacré au moins 36 personnes dans la région.
Monsieur Soumaré a condamné ces tueries et demandé une plus grande protection pour les civils. Citant des sources de la société civile, il a dit que plus de 88 000 habitants ont été forcés de fuir leur foyer à cause de la violence. Cela exacerbe, a-t-il poursuivi, une situation humanitaire qui est déjà précaire pour les civils de la région qui vivent dans la peur permanente d'un autre massacre. Radio Okapi a signalé que 13 autres personnes ont été tuées et 7 blessées tôt lundi matin lors d'attaques à l'arme blanche dans des villages près de Beni.
Le président français François Hollande a annoncé la libération du dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevitch, qui était détenu depuis presque 3 ans par ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Lazarevitch, qui est âgé de 50 ans, avait été enlevé dans le nord du Mali. Il a parlé à la presse hier à Niamey aux côtés du président nigérien Mahamadou Issoufou. La nouvelle a aussitôt suscité des questions sur les concessions que le gouvernement français pourrait avoir faites pour obtenir d'ACMI la libération de son ressortissant.
La France soutient qu'elle ne paie pas de rançon, mais elle a reconnu en septembre dernier que d'autres pays l'avaient fait pour aider la France. La libération de Serge Lazarevitch est intervenue quelques jours après celle de 2 combattants d'ACMI emprisonnés au Mali pour son enlèvement et celui de son collègue Philippe Verdon. Ce dernier a été retrouvé mort, tué d'une balle dans la tête en juillet 2013. Les 2 combattants ont été transférés à des médiateurs au Niger samedi pour être ensuite remis à ACMI.
3 étrangers, un Suédois, un Néerlandais et un Sud-Africain, sont toujours détenus en otage au Sahel par ACMI. Ils ont été enlevés le 25 novembre 2011 à Tombouctou, dans le nord du Mali. En février 2013, la France avait compté jusqu'à 15 otages en même temps. Nous reviendrons dans nos dossiers du jour sur les réactions à Gao avec notre correspondant sur place.
En Côte d'Ivoire, le congrès du FPI, le principal parti d'opposition, a été reporté. C'est ce qu'a annoncé Pascal Affine-Guessan, le chef du Front populaire ivoirien, qui entend ainsi éviter une déchirure au sein du parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Le point avec Morgane Guiriec.
Ce congrès aurait dû avoir lieu entre jeudi et dimanche, mais le chef du parti, Pascal Affine-Guessan, redoutant que l'événement n'entraîne des confrontations, a décidé son report. Il faut dire que 2 camps s'opposent au sein du Front populaire ivoirien. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent la candidature de Laurent Gbagbo à la tête du parti. Poursuivi pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, l'ancien président est toutefois emprisonné depuis 3 ans à La Haye. De l'autre côté, il y a ceux qui soutiennent la candidature du président du FPI, Pascal Affine-Guessan. Il a pour sa part saisi la justice ivoirienne pour invalider la candidature de Laurent Gbagbo, son mentor, qualifiant de faux les documents qui la soutiennent.
Le gouvernement du Kenya menace de poursuivre les auteurs d'un documentaire selon lequel le Kenya utilise des escadrons de la mort contre les extrémistes islamistes. Ce documentaire, diffusé lundi par la chaîne de télévision Al Jazeera, a été qualifié par Nairobi de scandaleux et contraire à l'éthique. Dans une série de messages sur Twitter et de déclarations officielles, les autorités kényanes ont démenti avec véhémence recourir à des escadrons de la mort.
Et le gouvernement de Nairobi a ordonné l'ouverture d'une enquête pour d'éventuelles poursuites contre ceux qui sont impliqués dans ce documentaire. Al Jazeera y présente des interviews avec des hommes qui disent avoir appartenu à de tels escadrons et perpétré des exécutions extrajudiciaires.
Le gouvernement de Khartoum et les rebelles soudanais n'ont pas réussi à conclure un cessez-le-feu après 3 semaines de négociations ardues à Addis Abeba. Les précisions de Félix Yapasis Zembro.
Les rebelles exigeaient que la trêve dans les provinces du Nil Bleu et du Kordofan du Sud soit négociée en même temps que celle pour le Darfour. Hussein Karaoum, le représentant de Khartoum, a estimé qu'il s'agit de 3 sujets différents et que chaque région a ses problèmes spécifiques. Les rebelles du SPLM Nord voulaient aussi opérer un lien avec le récent développement politique à Khartoum. Le président Omar El-Béchir au pouvoir depuis 25 ans est candidat à sa réélection en avril 2015. Il a annoncé un dialogue national pour le mois prochain. Mais sur le front politique, c'est l'impasse. L'opposition soudanaise a voulu parler d'une même voix que les rebelles avec la signature d'un accord la semaine dernière. Le lendemain, Khartoum a averti qu'il y a un prix à payer, à prendre langue avec les rebelles et 2 leaders de l'opposition ont été jetés en prison.
Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de moitié depuis 2000, selon l'OMS. L'agence onusienne redoute cependant que l'épidémie d'Ebola, 100 fois moins meurtrière, ne freine cette tendance en Afrique de l'Ouest en déstabilisant les systèmes de santé. Jean-Roger Bion.
Entre 2000 et 2013, le taux de mortalité lié au paludisme a diminué de 47% dans le monde et de 54% dans la région Afrique, selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, obtenu par l'AFP. Cela aura permis de sauver près de 4,3 millions de vies. 198 millions de cas de paludisme ont été recensés l'an dernier pour 584 000 décès avec 90% des morts dénombrés en Afrique. Les enfants de moins de 5 ans constituaient 78% de ces victimes. Cette baisse des cas en Afrique s'explique notamment par des mesures de prévention mieux appliquées avec près de la moitié de la population à risque qui avait en 2013 accès à une moustiquaire imprégnée d'insecticides contre seulement 3% en 2004. S'y ajoute une intensification des tests de diagnostic ayant permis à 62% des patients suspectés de paludisme d'être traités dans un établissement de santé publique. L'organisation sanitaire s'inquiète toutefois de la propagation du virus Ebola qui, en déstabilisant fortement les systèmes de santé des 3 pays africains les plus touchés, Sierra Leone, Libéria et Guinée, prive certains malades de traitement contre le paludisme en raison de l'engorgement des services de santé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a dénoncé des méthodes contraires aux valeurs américaines après la publication d'un rapport du Sénat sur les techniques d'interrogatoire utilisées par la CIA après le 11 septembre 2001. Monsieur Obama a promis de tout faire pour qu'elles ne soient plus jamais utilisées. Les associations de défense des droits de l'homme sont montées au créneau, Michel Joseph.
Ce rapport confirme ce qu'on savait déjà d'après Ben Emmerson, rapporteur des Nations Unies sur les droits de l'homme. Il a ajouté que les responsables doivent être traduits en justice. Pour Anthony Romero, directeur général de la puissante Union américaine de défense des libertés, c'est un rapport scandaleux et les responsables devraient rendre des comptes. Stephen Hawkins, directeur général de la section américaine d'Amnesty International, affirme que ce programme a permis de commettre impunément ce que la loi sur la torture et les disparitions qualifie de crime. Pour le directeur général de Human Rights Watch, Kenneth Roth, cela montre bien que les affirmations répétées selon lesquelles des mesures drastiques étaient nécessaires pour protéger les Américains n'étaient que pure fiction.
Les Nations Unies annoncent que les États membres ont accepté d'accueillir chez eux plus de 100 000 réfugiés qui se trouvent dans les pays voisins de la Syrie, ce qui double le précédent nombre d'offres de réinstallation. L'annonce en a été faite hier par le chef du ACR, Antonio Guterres, quelques heures après une conférence des donateurs à Genève où il a réitéré son appel pour une collaboration internationale accrue en faveur des réfugiés syriens qui fuient la guerre civile chez eux et les exactions des militants du groupe État islamique. Auparavant, M. Guterres avait déclaré que l'objectif était pour les pays non voisins de la Syrie d'accueillir 10% des 3 millions de réfugiés syriens, mais il s'est félicité de ce qu'il a appelé ce résultat intérimaire. La plupart des pays qui ont offert hier d'accueillir sur leur sol les 100 000 appartiennent à l'Union européenne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. La Minute Éco pour tout savoir sur l'actualité économique en Afrique. Pour en parler dans ce studio, Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
On reparle de la loi Dodd-Frank qui oblige les compagnies américaines à assurer la traçabilité des minerais qu'elles utilisent.
Oui, ce texte de 2010, aussi appelé loi sur les diamants du sang, a permis une plus grande transparence et d'éviter que l'argent du commerce des minerais ne finance des groupes armés, notamment en République démocratique du Congo. Lundi, c'était la date limite pour faire appel pour les entreprises qui se plaignent de cette loi. En cas de rejet de ces appels par la justice américaine, la transparence serait donc garantie de façon définitive. La loi Dodd-Frank a vraiment changé beaucoup de choses, explique Fidel Bafilemba, chercheur du NF Project à Goma.
C'est vraiment une date très mémorable, très importante pour la moralité dans le commerce de minerais provenant de l'Est de la RDC.
Le port d'Abidjan s'étend.
Ian Yakuba Sié, son directeur général, a révélé que la China Exim Bank a accordé un prêt de 466 milliards de francs CFA pour construire le deuxième terminal pour conteneurs dans le port de la capitale économique ivoirienne. Le port est vital, évidemment, pour l'exportation de cacao.
La compagnie publique aérienne sud-africaine South African Airways au bord de la faillite.
Oui, la compagnie s'est donné 90 jours pour éviter la faillite en comprimant les coûts et en remettant à plat le réseau sans aide financière de l'État. Le Trésor public a indiqué qu'il n'y aurait pas d'injection de capital, a déclaré lors d'un point de presse Nico Bezuindehout, directeur général par intérim de l'entreprise publique.
Merci Nicolas. Sport maintenant avec Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Idrissa.
En Ligue des Champions, on connaît le nom des premières équipes qualifiées pour les 16e de finale.
Dans le groupe A, l'Atlético Madrid, vice-champion d'Europe, et la Juventus de Turin se sont neutralisés 0-0. Un score qui qualifie les deux équipes. L'Olympiakos a battu Malmo 4-2. Dans le groupe B, grosse surprise puisque le FC Bâle est allé chercher sa qualification sur le terrain de Liverpool. Match nul, un but partout chez les Red Devils qui sont éliminés. Sans enjeu, le Real Madrid a battu 4-0 le Ludogorets grâce notamment à un pénalty de Cristiano Ronaldo. Dans le groupe C, Monaco termine premier après sa victoire 2-0 à domicile face au Zenit Saint-Pétersbourg. 0-0 entre Benfica et Bayer Leverkusen, un score qui qualifie les Allemands.
Enfin, dans le groupe D,
à Istanbul, Galatasaray, déjà éliminé, a été sèchement battu 3-1 par Arsenal. Dortmund, également qualifié, a battu 1-0 Anderlecht.
Ce mercredi, 8 nouveaux matchs de la Ligue des Champions. Groupe E,
le Bayern de Munich, déjà qualifié, se déplace à Moscou chez le CSKA, qui accompagnera les Bavarois. Sans doute le vainqueur du match AS Rome-Manchester City. Groupe F, FC Barcelone contre Paris Saint-Germain, les deux équipes sont déjà qualifiées. Ajax d'Amsterdam contre Apoel Nicosie. Groupe G, Chelsea déjà qualifié, accueille le Sporting Portugal qui peut encore rêver des huitièmes. Même scénario pour Schalke 04 en cas de victoire à Maribor. Groupe H, FC Porto contre Shakhtar Donetsk, les deux équipes sont déjà qualifiées. Athletic Bilbao contre Bate Borisov.
Le Maroc a dit non à la CAN pour cause d'Ebola, mais accueille dès demain le Mondial des clubs.
Et voici le programme de cette compétition. Demain à Rabat, match de barrage entre Auckland de Nouvelle-Zélande et Tétouan du Maroc. Le vainqueur de ce match rencontrera samedi en quart de finale le champion d'Afrique en titre, RS Sétif. Autre quart de finale entre Cruz Azul du Mexique et Western Sydney Wanderers d'Australie. Le champion d'Europe, le Real Madrid, jouera mardi prochain directement en demi-finale. La finale le 20 décembre à Marrakech. Enfin, les résultats de la nuit dernière en NBA.
Toronto 101, Cleveland 105. Portland 98, Détroit 86, Dallas 105, Memphis 114, New York Knicks 93, New Orleans Pelicans 104, Milwaukee 101, Oklahoma City 114.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant au dossier du jour. Le responsable onusien de la lutte contre Ebola, David Nabarro, a parlé de deux foyers préoccupants de propagation du virus Ebola dans l'ouest de la Sierra Leone et dans le nord de la Guinée. Il a également déploré le fait que des malades préféraient rester dans leur famille plutôt que d'aller dans des centres de santé. Une inquiétude que partage Médecins sans frontières, son directeur général, Stéphane Rock.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une épidémie qui est nouvelle pour cette zone de l'Afrique, hein. Une maladie jusqu'alors quasiment inconnue, dont les ravages sont quand même importants avec une forte létalité. Et donc vous associez à la fois la découverte d'une pathologie qui est hautement mortelle, un défaut de prise en charge du système sanitaire et un nombre de décès qui s'accroît. Et tout ça concourt à une panique et à une défiance des populations envers le système de santé. L'analogie assez simple est de se dire pourquoi, alors qu'on ne vous explique pas ce qu'est cette épidémie, aller dans un centre où vous n'aurez plus le droit de voir votre famille pour des mesures de protection hein, et que vous allez décéder seul dans ce centre. Évidemment, je grossis le trait, mais on a tous ces événements qui se sont suivis et il faut aujourd'hui, encore plus que jamais, déployer des efforts de communication, de pédagogie, d'information. Il faut rétablir la confiance. Il y a eu à la fois un problème de confiance dans les pays touchés, tout comme un problème de confiance dans les grands pays internationaux avec des mesures de protection, de quarantaine pas réellement argumentées. C'est une maladie dangereuse avec un taux de mortalité importante, mais on peut la prendre en charge, même s'il n'y a pas de traitement curatif, il y a au moins un traitement symptomatique pour réduire la mortalité. Et il faut donner confiance aux populations qu'en effet, plutôt que de cacher les personnes décédées ou les personnes souffrantes, il faut les inciter à se rendre dans les centres de soins et être traitées.
Et vous avez fait des formations en ce sens à vos équipes sur le terrain ?
Oui. Il y a eu un programme de formation intense par Médecins sans frontières, à la fois pour le personnel international et les volontaires MSF que nous envoyons sur les terrains, mais aussi d'un grand nombre d'autres institutions. Pendant les mois de septembre-octobre, il y a eu des dizaines de personnes formées par MSF pour rejoindre des organisations institutionnelles, même liées à des États ou d'autres acteurs humanitaires. Et puis, il y a eu des formations importantes pour le personnel local, les salariés qui travaillent sur ces terrains au quotidien. Bien sûr, de protection, de sensibilisation. Il y a des équipes, et MSF le fait, et d'autres acteurs le font également, mais il faudrait faire davantage, qui sont formés à sensibiliser les populations, à expliquer de la manière la plus simple possible. Pour gagner contre une épidémie, il faut vraiment agir à temps, s'adapter à l'épidémie, avoir le meilleur arsenal thérapeutique, et on pourra y revenir, évidemment, il manque aujourd'hui, et puis expliquer, rétablir la confiance. C'est clé. Et aujourd'hui, malheureusement, on n'est pas encore arrivé à ce niveau d'information qui rétablit une confiance suffisante.
C'était Stéphane Rock, directeur général des Médecins sans frontières, au micro de Claire Morin-Gibourg.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Au Mali, les conditions éventuelles de la libération de l'otage français Serge Lazarevitch inquiètent les populations du nord du pays. Explication de notre correspondant à Gao, Moubacar Touré.
À Gao, dans le nord du pays, les commentaires vont bon train. Pour les habitants de la ville des Askias, c'est en échange contre deux grands terroristes qui sont illustrés dans les amputations et l'application de la charia au moment de l'occupation. Il s'agit de Ahmed Agali, Agwardoussen et Haïba Agacherif, d'où la couleur des uns et des autres.
L'otage français est libéré, mais à quel prix? Dans des situations comme ça, tout le monde comprend que c'est dans la discrétion totale que tout cela est négocié. Mais nous savons quand même que les terroristes ne vont jamais négocier la vie des otages français, n'est-ce pas, avec des banalités. On apprend la libération d'autres terroristes, ça ne fait que les renforcer. Et certainement qu'il y a des sous en dessous et qui vont également les renforcer en termes de jugement d'armement, voyez-vous. C'est quand même aberrant d'arriver à des solutions de ce genre qui, à la longue, ne peuvent que renforcer la capacité de nuisance de ceux-là même qui nous empêchent de dormir.
La libération d'un otage français contre deux islamistes qui ont fait des dégâts au Mali, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Nous savons aujourd'hui que c'est la France qui a une main mise sur même les affaires du pays. On est en train de subir.
À mon avis, c'est bien le fait de libérer un homme, un chef de famille. Mais le problème en est que qu'est-ce qu'ils vont en chercher pour l'échange des touristes, pour qu'ils reviennent encore nous embêter de faire ce qu'ils ont déjà fait, parce qu'ils ne font que le mal. C'est ça qui nous rend peur. On est content, tous les Maliens sont contents de libérer le français. Parce qu'à cause du Serval, le Serval nous a libérés ici. Vraiment, à cause du Serval, on ne peut rien dire. Mais les détourés, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? On a peur, on a nos enfants. On ne sont pas en sécurité. Ils nous ont fatigués. Ils sont devenus des loups. On ne peut même pas quitter à 20 km. On a toujours peur. On ne dort pas en paix.
Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En RDC, les femmes du site Kivu, dans l'est du pays, dénoncent la faible représentation de la femme au sein du gouvernement de cohésion nationale. La société civile de cette province insiste de son côté pour qu'on se concentre surtout sur les problèmes qui gangrènent le pays, particulièrement dans sa partie est. De Bukavu, Jolie Kamuntu.
Pour le caucus des femmes du Sud Kivu pour la paix, cette situation est loin de plaire dans un gouvernement dit de cohésion nationale. Solange Luachiga, secrétaire exécutive du caucus des femmes, se dit être
choquée, bouleversée. On a attendu longtemps ces gouvernements et un gouvernement qu'on s'est dit de cohésion nationale, que les femmes soient faiblement représentées comme ça. Pour moi, on n'a pas tenu compte des compétences des femmes parce que je me dis, est-ce que la République démocratique du Congo a manqué même 10 femmes qui pouvaient être ministres.
Les femmes du Sud Kivu notent que le président Kabila a violé non seulement la Constitution et les autres textes juridiques internationaux qui protègent la femme, mais il n'a pas tout simplement respecté sa promesse faite lors de la clôture des concertations nationales, promesse selon laquelle les femmes seraient représentées au gouvernement à plus de 30%.
La Constitution de la République démocratique du Congo qui consacre la parité homme-femme, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit que les femmes doivent être représentés dans les instances des prises de décision. Mais où est-ce que le président a mis tous ces textes? Pour que le pays fonctionne mieux, il faut quand même qu'on montre cette bonne volonté de respecter les textes.
Dans ce gouvernement de 48 personnes, il y a seulement 2 femmes ministres et 4 femmes vice-ministres. La société civile du Sud Kivu, quant à elle, pense que la cohésion nationale n'a rien à voir avec le changement du gouvernement, mais plutôt le changement de la situation de la population. Descartes Mpongé, président du bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu.
La cohésion ne passe pas par les changements des personnes. C'est une mentalité d'accepter les vérités, d'accepter les reproches et les critiques positives. C'est ça la cohésion nationale, mais aussi c'est de trouver des solutions à des problèmes comme au Nord Kivu, à Beni, où on a encore assassiné les gens le samedi passé. Je pense qu'il n'y a que l'accord global et inclusif et même peut-être aussi la loi Silaseni qui demandait expressement qu'il y ait les acteurs de la société civile. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « moi, je suis au gouvernement au nom de la société civile ».
Bukavu, Jolie Kamuntu, La Voix de l'Amérique.
Ici aux États-Unis, le président Barack Obama s'est engagé à tout mettre en œuvre pour que les techniques musclées d'interrogatoire utilisées par la CIA après le 11 septembre 2001 et contenues dans un rapport publié hier par le Sénat ne soient pas utilisées sous son administration. Certains républicains estiment pour leur part que la publication de ce rapport risque de mettre en danger la vie des Américains dans le monde. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
Les terroristes cherchent toujours à attaquer les Américains. C'est pas nécessaire d'avoir un rapport comme ça
pour les pousser à attaquer les Américains. Bien sûr, il y a des choses comme les satires contre le prophète Mohammed. Ça, les gens vont dans la rue pour attaquer les ambassades, etc. Mais ça, je crois pas, parce que les populations n'aiment pas beaucoup Al-Qaïda maintenant, ou ISIS, etc. Donc, il y a toujours un danger, mais je crois pas que c'est un vrai danger.
Quel est l'intérêt de publier ce rapport au plan domestique?
Il y a un intérêt politique parce que ils ont fait la torture sous l'administration de Bush, républicain, et les démocrates voudraient montrer que les républicains vont contre les idéaux, la moralité des Américains. Mais aussi, il y a des gens qui croient beaucoup qu'il faut pas faire des choses comme ça dans un système démocratique. Donc, ils publient ça pour que ça n'arrive pas à l'avenir.
On a côté républicain, par exemple, le sénateur John McCain, qui est un ancien prisonnier de guerre et qui est d'accord qu'on publie ce rapport.
Oui, il y a très peu de gens dans le Congrès qui ont eu son expérience. Il a été torturé pendant 5 ans au Vietnam quand il était prisonnier. Donc, pour lui, c'est une chose réelle.
Diverses organisations de défense des droits de l'homme disent qu'il faut poursuivre en justice les auteurs de ces actes.
C'était un acte de panique. Les gens de la CIA qui ont fait ça étaient des gens patriotiques. C'était pas des gens qui aiment faire ça, comme les nazis, par exemple, ou comme ISIL. Ils aiment torturer, couper les têtes. C'est un acte de panique regrettable, mais c'était pas en violation des droits de l'homme parce que les gens ne sont pas morts. Certains sont décédés. Il faut donner de l'argent, des réparations aux familles, etc. Mais c'était la guerre quand même.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, joint ici à Washington. On passe à la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Après le décès brutal de l'artiste sénégalais Demba Dia au Rock Mbala, le mois passé, des sources proches de l'artiste ont écrit sur les réseaux sociaux que le patron du Mac serait décédé d'un cancer qui lui avait été révélé il y a 3 ans. On se souviendra de lui dans Rock Mbala.
Naima bin Mouzoumbe, ligato benebe, ligato bengale, ligato benime, ligato bengale. Enen koni antane ligaden lady men, sopa boyanti gala gaberne yomongdar. Ligato benebe, ligato bengale, ligato benime, ligato bengale. Rodmara nyauna.
Demba Dia était un Alpoulard, né au plateau, mais qui a grandi entre Dakar et la France. Il a quitté l'école très tôt pour devenir moniteur de tennis. Ensuite, il est parti en France pour devenir professionnel, mais comme il avait toujours été passionné de musique aussi, il s'y est lancé.
C'est exact, Idrissa. Et d'ailleurs, vers 1991, il sort l'album Rock Mbalax, qui a fait un tabac d'après certains membres de sa famille. Lorsque Demba Dia a commencé à se sentir mal, il serait allé voir un médecin à Dakar, qui lui aurait signifié qu'il s'agissait juste d'un kyste, mais la situation ne s'améliorant pas, il s'était rendu à Paris dans un hôpital américain pour un check-up complet et c'est là où son cancer a été détecté.
Demba Dia dans Rock Mbala. Merci Roger.
Mais c'est moi qui vous remercie Idrissa. Nos pensées ce matin vont à la famille et aux fans des Demba Dia, paix à son âme.
Retrouvez Roger Muntou dans le RM Show à 20h temps universel.
Il
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Alberson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique sur la Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.